À notre journal au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs ont commencé ce mardi à voter pour désigner le successeur de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Un scrutin très ouvert, censé enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par les séquelles d'une longue guerre civile. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h temps universel et fermeront à 18h, les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures. Parmi les favoris figurent le sénateur Georges Weah, légende du football africain, le vice-président Joseph Boakai, l'avocat et vétéran de la politique Charles Bramskine et les puissants hommes d'affaires Benoni Ray et Alexander Cummings. En Côte d'Ivoire, Souleyman Camarate Kone dit Soul to Soul, directeur du protocole de Guillaume Soro, l'influent président de l'Assemblée nationale, est inculpé depuis lundi. Une décision judiciaire prise à son encontre dans le cadre de l'enquête sur les caches d'armes découvertes chez lui le 15 mai dernier lors de la mutinerie à Bouaké dans le centre du pays. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre Souleyman Camarate Kone, dit Soul to Soul, pour complot contre l'autorité de l'État. Détention, entreposage, cession d'armes de guerre et de munitions première catégorie. Une déclaration faite par le procureur du tribunal d'Abidjan Plateau, Richard Christophe Adou.
Les enquêtes immédiatement ouvertes ont permis d'établir que la villa abritant cette cache d'armes est la propriété de M. Kone Camarate Souleyman, responsable du protocole du président de l'Assemblée nationale. On conclut que cette cache d'armes contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissémination de ces armes de guerre de manière illégale visait la déstabilisation de l'État. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée.
Guillaume Soro, hors du pays depuis plus de 2 mois, a sur sa page Facebook appelé les Ivoiriens au calme et à la sérénité. Et sur son compte Twitter, il s'exprime en ces termes. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Paix sur la Côte d'Ivoire. Cette déclaration à relance religieuse de l'expansionnaire du petit séminaire Saint-Jean de Katula traduit le malaise entre le pouvoir d'Alassane Ouattara et celui qui était considéré comme son dauphin, Guillaume Soro, ex-secrétaire général de l'ex-rébellion armée, qui a pris une part décisive à la session du président Alassane Ouattara au pouvoir en avril 2011. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, les habitants de Kidal ont manifesté pour la 3e fois depuis vendredi afin de réclamer le départ de la force française Barkhane de leur ville. Ces manifestations anti-françaises font suite à la perquisition effectuée par Barkhane au domicile du riche homme d'affaires Mamadou Agrissa. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est le 1er octobre dernier que la force Barkhane avait fait une perquisition au domicile de Mahamadou Agrissa, adjoint au maire de la ville de Kidal. 2 personnes ont été arrêtées, des voitures brûlées. C'est pour cela que chaque jour, les populations de Kidal organisent des marches, des barricades. Au cours de ces manifestations, l'armée française se fait caillasser dans la ville de Kidal. La population réclame le départ de l'armée française de Kidal. Les soldats s'enferment dans leurs blindés et filent à vive allure pendant que les jeunes jettent des cailloux. Certains manifestants ont peint les panneaux français en rouge pour symboliser le sang versé par l'armée française dans la ville de Kidal. Ces manifestations anti-françaises se déroulent sans incident majeur. Toujours dans la région de Kidal, les concertations entre la SEMA et la plateforme se poursuivent à Anefif, avec un léger blocage au niveau de la commission thématique en relation avec la justice. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Crise migratoire, la France va lancer des missions au Niger et au Tchad pour identifier les personnes pouvant bénéficier du droit d'asile sur des listes proposées par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. C'est ce qu'a annoncé le président français lundi à Filippo Grandi, président du HCR. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Emmanuel Macron a expliqué au patron du HCR, Filippo Grandi, que ses missions visent à prévenir l'afflux de migrants économiques non éligibles au droit d'asile. L'Élysée a précisé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides va se rendre fin octobre au Niger. La France prévoit ouvrir sur les 2 prochaines années 10 000 places pour les réfugiés acceptés depuis le Niger, le Tchad, la Turquie, le Liban et la Jordanie. Le président français Congrès a rappelé que son pays veut mieux accueillir ceux qui ont droit à l'asile, mais expulser de manière beaucoup plus rigoureuse les migrants économiques qui n'ont pas droit à ce statut. Il a aussi annoncé une augmentation de 10 millions d'euros d'aide de la France au HCR et à l'Organisation internationale pour les migrations. Cet argent va servir à appuyer les actions de ces organes de l'ONU en Libye pour une protection des personnes près des zones de conflit.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Rwanda, Human Rights Watch accuse l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects dans un rapport publié ce mardi. Selon ce document de 102 pages intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda », l'Organisation de défense des droits de l'homme basée à New York a documenté 104 cas de personnes emprisonnées illégalement dans les centres de détention de l'armée rwandaise entre 2010 et 2016 et pour une majorité d'entre elles, victimes d'actes de torture, bastonnades, décharges électriques et simulacres d'exécution. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump change de nouveau de posture politique sur l'immigration. Dans un document adressé dimanche soir au Congrès, la Maison-Blanche exige un financement du mur à la frontière avec le Mexique et l'accélération des procédures de renvoi des mineurs arrivant à la frontière. Pour une réforme de l'immigration, M. Trump veut aussi changer le système des permis de résident permanent, carte verte et la suppression de la loterie qui permet chaque année depuis 1994 à 50 000 personnes de bénéficier de ces précieuses cartes vertes. Et enfin, le chef de l'exécutif préconise l'augmentation de manière significative des effectifs du personnel de l'immigration chargé de l'application des textes. Pour réaction, Eric Maniraquiza a joint à New York le militant pour les droits des immigrants, Bakary Tandja.
Je peux dire que c'est choquant, en même temps ce n'est pas choquant de la part de ce président qui va de surprise en surprise et qui n'a pas hésité à exhiber sa désapprobation par rapport aux lois d'immigration et sa volonté de faire la chasse enfin aux immigrants. Donc ce n'est pas une décision surprenante.
Il monte les enchères. Est-ce que vous pensez que le Congrès, qui est majoritairement républicain, va suivre...
Enfin, le Congrès, il est vrai que est majoritairement favorable à lui. Bon, mais la réalité est que les propositions qu'il vient de faire ne sont pas du tout réalistes. Bon, premièrement, le financement du mur, moralement, c'est inacceptable. Financièrement, c'est un gâchis. Et puis, selon les experts, d'une manière unanime, ce n'est pas un moyen effectif de protéger les frontières. Et la proposition concernant les mineurs qui consiste à les renvoyer dans les délais les plus courts revient tout simplement à les priver des protections légales qui sont actuellement disponibles pour assurer que les choses se passent conformément aux lois, conformément à certains principes humains. Ils n'ont personnellement commis aucune faute, ils n'ont violé aucune faute, ils n'ont violé aucune loi. Donc c'est tout à fait, c'est vraiment inacceptable. C'est indéfendable sur tous les plans, sur le plan humanitaire, sur le plan légal, sur le plan moral. Bon, par ailleurs, le problème de la loterie, la green card, bon, qui consiste à sélectionner chaque année une cinquantaine de milliers de personnes qui viennent ici avec la carte verte. Bon, ça, nous, en tant qu'Africains, ça nous concerne, ça nous affecte principalement. Comme nous l'avons toujours dit, la majorité des Africains qui viennent ici aux États-Unis avec le visa d'immigrant viennent à travers ce canal. Et c'est un canal qui a toujours marché pour nous, qui ne cause de préjudice à personne, à aucune autre communauté. Bon, donc, le fait de nous priver de cette opportunité est une atteinte à la communauté africaine. On peut même l'interpréter comme un acte discriminatoire.
Bakary Tandja, militant pour les droits des immigrants à New York.